Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Manger. Manger, c'est un des besoins fondamentaux de l'homme. Et nous n'imaginons pas vivre sans manger. Cela fait partie de notre culture, de nos modes de vie. Tout homme ou toute femme cherche sans cesse, à un moment ou à un autre, quelque chose à manger, car il a faim. La semaine dernière, souvenez-vous, c'est la faim qui pousse le fils prodigue à revenir vers son père. Il y a 15 jours, la première tentation du Christ va porter sur ce besoin de manger qu'il a ressenti après 40 jours de jeûne. Et aujourd'hui, l'Évangile nous parle aussi de la faim. Mais le Christ veut nous montrer de quelle nourriture, de quelle faim nous avons réellement besoin pour vivre éternellement. Jésus vient de réaliser devant une foule énorme, si on dit dans l'Évangile, donc plus de 5000 personnes, le miracle de la multiplication des pains. Et la foule le suit. Et se voyant, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Et le Christ le répète, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui a foi en moi n'aura jamais soif. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Il nomme, peut-on dire ainsi, clairement les choses. Manger des nourritures terrestres ne conduit pas à la vie éternelle. Seule la nourriture qui vient de Dieu conduit à la vie éternelle. Et il précise en disant que c'est sa chair et son sang qui donnent la vie éternelle. L'incarnation du Christ n'a qu'un seul but, faire de l'homme un être vivant, immortel, le faire participer éternellement à la vie en Christ. Au fond de lui, l'homme a ce désir de vivre éternellement comme son Créateur, mais il ne sait pas comment faire. Il cherche des artifices extérieurs pour prolonger sa vie terrestre. Et le Christ nous donne ici les deux conditions, non pas pour prolonger de quelques années notre vie terrestre, car le Christ veut plus pour nous, mais pour devenir pleinement semblable à lui et partager sa vie. Ces deux conditions, ce sont venir à lui et croire en lui. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui a foi en moi n'aura jamais soif. C'est la phrase importante de l'Évangile. La vie auquel il nous invite est une vie débarrassée de contraintes matérielles, du manger et du boire pour vivre. Il nous invite à travailler pour nourrir une vie qui ne mourra jamais, pour vivre au cœur de notre vie mortelle de tous les jours, une vie immortelle. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à suivre le Christ à 100%? Est-ce que nous avons la foi en la vie éternelle, en la résurrection? La vie que nous avons reçue du Père, c'est la vie en Christ. Et c'est dans une union intime avec lui que nous accédons à sa vie. Retrouver la vie qui nous a été donnée par Dieu, c'est la résurrection. Le Christ a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle, pour nous sortir de nos enfers mortifères. Sa vie qu'il nous a donnée s'actualise chaque fois que nous communions à lui et que nous recevons l'Eucharistie. Avons-nous faim de sa chair que nous recevons à la communion? Avons-nous soif de son sang que nous buvons à la communion? Il ne suffit pas de ressentir ce désir, cette faim, cette soif, mais encore faut-il croire que le Christ est présent dans ce pain et ce vin, qu'il est le chemin, qu'il est la voie pour arriver à cette vie éternelle qui nous est promise. La liturgie et la communion nous sont offertes pour expérimenter cette présence et approfondir notre foi. Le pain et le vin sont encore de la matière, mais une matière transfigurée, remplie de vie, remplie d'énergie divine. C'est le support visible de la présence invisible du Seigneur, de sa chair et de son sang. Est-ce que nous y croyons? Si nous n'avons pas la foi en cette présence, les dons que nous recevons à la communion restent du pain et du vin et ne nourrissent que notre vie terrestre. Une des forces du démon est justement de nous faire douter, de faire appel à notre rationalité pour nous faire sourire de cette croyance et aussi nous détourner de cette nourriture d'immortalité. Lorsqu'à la communion, le prêtre dit « Tu communies au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle », est-ce seulement une belle phrase ou un symbole? Ou bien est-ce la réalité? Le Christ, comme il l'a fait avec saint Thomas, qui doutait de la réalité et de sa résurrection, nous montre encore aujourd'hui, par des miracles, la réalité de cette présence à travers ce pain et ce vin. Et depuis 2000 ans, ce sont plusieurs centaines de miracles qui ont été révélés où l'hostie a pris chair et s'est couverte de sang. C'est le miracle eucharistique, rendu visible pour dissiper nos doutes et contrer les ruses du démon. Alors vous pouvez me dire, oui, mais au Moyen-Âge, nous n'avions pas les moyens de vérifier ces racontars. Oui. Mais vous connaissez Jorge Mario Bergoglio, le pape François, qui était anciennement archevêque de Buenos Aires. Et en août 1996, un prêtre de son diocèse reçoit d'une de ses paroissiennes une hostie souillée qu'elle a ramassée dans le fond de l'église. Alors il l'avait mise dans un récipient d'eau et il l'avait mise dans un tabernacle. Et une semaine après, en ouvrant le tabernacle, il vit que l'hostie était devenue une substance sanglante et elle avait augmenté de taille. Le pape François, qui à l'époque était l'évêque auxiliaire, justement, de l'évêque du Buenos Aires, la garda en secret pendant 3 ans dans de l'eau purifiée. Et en octobre 1999, il fit prélever par un médecin, en présence de témoins, un fragment de cette substance pour l'envoyer à New York pour analyse chez un cardiologue et pathologiste médico-légal réputé. Et la réponse qu'il reçut est révélatrice de la réalité des paroles du Christ. Et je vous la lis parce que c'est assez édifiant. Le docteur Zoujiba, puisque c'était son nom, déclara « La matière analysée est un fragment du muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule gauche, près des valves. Ce muscle est responsable de la contraction du cœur. Ce muscle fonctionne comme une pompe qui envoie le sang dans tout le corps. Le muscle cardiaque est dans un état d'inflammation et contient un nombre important de globules blancs. Ceci indique que le cœur était vivant au moment où l'échantillon a été prélevé. J'affirme que le cœur était vivant étant donné que les globules blancs meurent en dehors d'un organisme vivant. Ils ont besoin d'un organisme vivant pour être maintenu en vie. Donc, leur présence indique que le cœur était vivant quand l'échantillon a été prélevé. Par ailleurs, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique d'autant plus que le cœur avait été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. Renversant, non ? Ce miracle eucharistique bénéficie ici de toute la rigueur scientifique moderne, puisque le pape François avait lui-même caché l'origine de l'échantillon. Et ainsi, la science moderne rejoint ici le miracle biblique et renforce notre foi, le récit biblique, pardon, et renforce notre foi dans un Dieu qui désire nous rendre conscients du fait qu'il est véritablement présent dans le mystère de l'Eucharistie et qu'il est donateur de vie. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.